Et avec votre esprit.
Voilà toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Il y a quelques années, mes chers amis, j'avais constaté que les ouvrages généalogiques étaient en vigueur et c'était recherché partout ici à Ottawa et en particulier, et puis au Canada en général. J'avais constaté aussi que beaucoup de familles voulaient en avoir un livre de leur généalogie pour savoir comment successivement les ancêtres sont arrivés sur Canada et qui était le premier ancêtre en fait en quittant l'Europe. Et je me rappelle d'ailleurs d'avoir rencontré quelques familles qui me disaient que leur ancêtre en fait est venu de la région de Saint-Malo, France. Et puis bon, quand il est arrivé pour la première fois, c'était sur l'île d'Orléans. Et c'est un qui me disait que le nom de famille c'était ceci, mais plus tard on enlevait un L, on a mis un R, etc. Donc on a vu ça dans la généalogie. En fait, la généalogie permet de connaître l'origine d'une famille et puis de connaître aussi les hauts et les bas que la famille a connus. Ça permet de savoir d'où on vient et à partir de là aussi où nous allons. Alors en réfléchissant sur ce texte des Actes des Apôtres, je me suis dit, mais en fait, quand on le voit de près, le livre des Actes des Apôtres en quelque sorte est un livre généalogique. Pourquoi ? Parce que il brosse l'origine de la communauté chrétienne. Nous savons d'où nous venons, comment nos ancêtres ont vécu leur foi dès les débuts et comment, successivement, d'un pays à l'autre, eh bien, le christianisme s'est répandu. D'ailleurs, à ce propos-là, d'une manière plénière, quand on parle de l'église mère, c'est l'église de Jérusalem, c'est pas l'église de Rome. L'église mère, c'est l'église de Jérusalem, c'est-à-dire que toutes les églises sont sorties de là, sont parties de là, de Jérusalem. Alors, l'église de Rome, c'est l'église première parmi toutes les églises qui gèrent, qui veillent sur la communion. Mais nous sommes venus tous et toutes de Jérusalem. D'ailleurs, à ce propos-là, dans la première lecture d'aujourd'hui, on semble nous présenter comment les choses ont commencé. Au tout début, après la Pentecôte, quelques temps après, eh bien, c'était la persécution de l'Église. On a commencé à tuer les chrétiens. Alors, ils ont eu peur, ils ont fui, ils ont quitté Jérusalem et sont partis ailleurs. À ce moment-là, l'Église a commencé à se répandre. Alors, l'expansion de l'Église a été déclenchée par la persécution des disciples du Christ. Alors, après la persécution, quand ils sont partis, ils n'ont pas eu peur en Samarie. Là aussi, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce qu'ils ont été persécutés. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu d'eux qui se sont tus. En allant dans une nouvelle contrée, ils ont commencé aussi à vivre, continuer à vivre leur témoignage chrétien. Mes amis, parce que nous sommes des chrétiens qui venons des Actes des Apôtres, nous ici à Saint-Gabriel, ça fait 2 ans en fait qu'il y a toute une réflexion qui s'est faite dans la manière de promouvoir, de renouveler notre pastoral au niveau de la réflexion. Et de plus en plus, je voudrais inviter chaque fidèle à s'intégrer dans cette réflexion-là et à poser des gestes concrets. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut apprendre petit à petit à se familiariser avec la vision qui se trouve dans notre bulletin paroissial et que de temps en temps nous faisons apparaître sur l'écran au mur de l'église. Alors, pourquoi ? Parce que cette vision-là doit nécessairement avoir un lien avec les Actes des Apôtres, parce que c'est notre arbre généalogique, c'est notre livre généalogique. Si nous voulons savoir qui nous sommes et ce que nous devons être, cela doit toujours être en rapport avec l'église mère, l'église de Jérusalem, avec la première communauté chrétienne. Alors, cette première communauté chrétienne a connu la persécution. Malgré la persécution, elle a continué à témoigner le nom de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés dans le monde. Souvent, on ne le dit pas assez. Il faudrait que de temps en temps, nous là, nous soyons conscients de cela. Et les dernières persécutions qu'on a eues, c'était en Égypte, le dimanche des Rameaux, où les chrétiens sont en train de prier, et voilà qu'on fait sauter une bombe. Durant la prière, il y a eu des morts. On sait que dans certains pays d'Orient, les églises ne sont pas les bienvenues, même si c'est dans leur pays, ils ne se sentent pas les bienvenus et ils sont obligés de quitter, de partir, comme la première communauté chrétienne, ils partent ailleurs pour vivre leur foi. À ce propos-là, je me rappelle qu'une fois, je suivais l'émission sur TV5, et il y a peut-être 2 ou 3 ans, cette fois-là, c'était des familles de l'Irak, des chrétiens, et que la France avait accueilli. Parce qu'elles étaient pratiquement renvoyées de chez eux, elles étaient renvoyées de l'Irak à cause de leur foi, ne se sentaient pas bienvenues. Et tout un groupe de familles ont pris l'avion et ils ont été accueillis en France. Pour cela et là, ils n'ont pas caché leur foi, les familles n'ont pas caché leur foi, elles ont continué à vivre leur foi et à porter témoignage. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui souffrent, qui sont persécutés à cause de leur attachement au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Dans nos communautés à nous, dans nos églises à nous, dans nos pays à nous, il y a aussi une sorte de persécution beaucoup plus subtile dans nos communautés, dans nos villes, dans le monde aujourd'hui. C'est cette indifférence religieuse qu'on sent, qu'on ressent et qu'on voit dans nos communautés. Je me rappelle une dame qui me faisait un témoignage, me disant que son fils, un ingénieur, qui travaille dans une grande compagnie à Montréal, ses patrons l'avaient appelé pour dire qu'on l'avait vu comme le prochain Manitou, le prochain responsable de la compagnie, mais on aurait voulu qu'il mette un peu de bémol dans sa manière de vivre sa foi, parce qu'elle ne pouvait pas avoir accès à ce poste-là. Alors, d'ailleurs, il y a certaines personnes, des étudiants, des étudiantes, qui se sentent exclus dans leur milieu parce qu'ils professent extérieurement, officiellement, leur foi chrétienne. Et ils sont mis à l'écart. Même certaines personnes sont ridiculisées parce qu'ils croient encore aujourd'hui. Et on regarde même dans nos familles, parfois nos enfants nous disent « Mais papa, maman, ça c'est font vos choses, laissez-nous vivre notre vie. » Alors, en fait, c'est comment il faut répondre à cela. Pierre, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous dit que l'adversité, cette opposition subtile, ce rejet subtil, eh bien, nous devons avoir une position là-dessus. Alors, même si on est rejeté, nous continuons à vivre notre foi. Et Pierre de dire, cette foi-là, eh bien, il faudrait l'exprimer en douceur et avec respect. Est-ce que nous voulons imposer aux autres notre foi? Du tout. Est-ce que nous voulons que les autres prennent entrer dans l'espace des autres? Du tout. Moi, l'exemple le plus parlant, c'est la lumière. Moi, je me dis, une lampe là, quand elle n'éclaire plus, on l'enlève. C'est quoi le propre d'une lampe? C'est donner la lumière. Quand elle ne donne plus la lumière, à quoi ça sert la garder? Alors ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour se pavaner. Ce n'est pas une vie qui monte sur le toit. Regardez-moi, je suis chrétien du tout. La vie chrétienne, c'est une vie qui veut vivre en cohérence avec sa foi. Alors, la vie chrétienne, c'est une lampe. Quand elle est là, elle ne peut qu'éclairer. C'est ça son propre. Maintenant, si la lampe n'éclaire plus, ben, elle n'est plus lampe, elle ne donne plus la lumière. Alors donc, dans notre réplique, si on est rejeté, si on connaît la persécution subtile, notre réponse, ce n'est pas écraser, ce n'est pas la violence. Notre réponse, c'est continuer à rendre compte de notre espérance. C'est continuer à persévérer, à vivre notre foi, notre charité, notre ouverture et notre accueil, continuellement, sans fatigue, comme l'a fait le Seigneur. Je redisais dernièrement l'histoire des moines qu'on avait tués en Algérie, à Tébirent. D'ailleurs, on a fait un film là-dessus, vous vous rappelez, qui était un film très magnifique, que les critiques ont admiré, apprécié. En fait, c'est surtout l'histoire du prieur, Christian Chergé. Alors, Christian, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que nous sommes en 1993, nous sommes en Algérie, et à ce moment-là, il y a beaucoup de tensions au pays. Et en fait, l'Algérie de ce moment-là ne voulait pas voir des étrangers, ne voulait pas entendre parler des étrangers, c'était surtout les Français. Alors eux, les moines, c'était des Français. Et voilà que arrive ce qui est arrivé, à un moment donné, on viendra les prendre, on va les tuer. Mais maintenant, 2 ans avant cela, Christian avait fait ce qu'on appelle aujourd'hui son testament. Il avait écrit tout un document, une lettre, et l'a envoyé à sa famille. La famille n'a pas ouvert la lettre, c'était son testament. Il fallait attendre sa mort. Christian est mort. Alors, c'était vraiment des paroles significatives. La famille s'est dit, on ne va pas garder ça pour nous. On va leur donner aussi à sa communauté des moines. Les moines l'ont lu, ils ont dit, mais c'est formidable ce qu'il dit là, on ne va pas le garder pour nous. On dirait qu'il s'adresse au monde entier. Ils ont appelé le journal La Croix en France et ils ont donné la lettre et la lettre a été publiée. Dans le premier paragraphe, il dit à peu près ceci. Il dit, je sais qu'un jour peut-être je serai victime du terrorisme qui de plus en plus prend de l'ampleur ici. Mais je voudrais que ma famille sache une chose. Je voudrais que mon église sache une chose. Je voudrais que mes amis sachent une chose. Moi là, je donnais ma vie au Christ et je donnais ma vie à l'Algérie. Je suis venu ici en pleine liberté. Si un jour j'étais victime de la mort, victime du terrorisme, je ne voudrais pas que ma mort soit considérée comme une mort supérieure aux autres morts, aux autres personnes qui sont mortes. Mais je veux que ma mort soit considérée comme une de leurs. Pas plus, pas moins. Tu lis ça, tu sens ton cœur saigner. Ça, c'est quelqu'un qui vit dans l'adversité et qui garde sa joie chrétienne, qui garde sa conviction chrétienne. Voilà un exemple concret. Nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre malgré les oppositions, malgré les choses qu'on voit parfois négatives, qui nous découragent. Nous sommes appelés à tenir debout comme chrétiens, à garder. Ce qu'il faudrait, c'est, dans la messe d'aujourd'hui, c'est demander que nous continuions à être des témoins dans nos milieux aujourd'hui. La dernière chose qui vient des lectures d'aujourd'hui, c'est à propos de l'Esprit-Saint. Voyez-vous, je vous ai parlé des funérailles d'hier. Alors, quand je les préparais, je vous ai dit que madame est décédée à 97 ans. Alors, j'ai préparé les funérailles avec son fils aîné, qui a 75 ans. Alors, il est venu, il m'a raconté des choses, et puis ensemble, on a préparé les funérailles. Mais ce qui m'a touché, lui, il m'a dit que, en tout cas, je me sens orphelin. 75 ans. Ouais, il se sentait orphelin. Il dit, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, ta mère, c'est ta mère. Et puis, la relation que tu as à ta mère, tu ne peux pas l'avoir avec personne d'autre. L'amour maternel, c'est l'amour maternel. Alors, impossible de remplacer la douleur de l'abandon de l'amour maternel. Alors, Monsieur Yod, Rosebush, sentait cela. Mais maintenant, en lisant l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, écoutez, je ne vais pas vous laisser orphelins. Eh bien, le Seigneur veut dire, écoutez, je ne veux pas vous abandonner. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez insécure. Je ne voudrais pas que vous sentiez que vous êtes laissé tout seul quand je vais partir. Eh bien, pour vous affirmer cela, pour vous rassurer, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint, en fait, prend la place du Christ pour que nous ne sentions pas orphelins, orphelines. Pour que nous sentions toujours avec le Christ qui vit avec nous, qui nous porte toujours, qui est là pour nous. Voyez-vous. Alors l'Esprit c'est très bien expliqué dans la lecture d'aujourd'hui. Le diacre Philippe, il annonce la bonne nouvelle par la force de l'Esprit, il fait des prodiges par la force de l'Esprit, il continue les gens, il provoque la conversion des gens par la force de l'Esprit. Et quand ils ont créé une nouvelle communauté, eh bien Jean et Pierre se disent, nous allons aller en Samarie parce qu'une nouvelle communauté commence. Ils ont été baptisés, mais il faut qu'ils aient l'Esprit Saint. Ils sont partis les imposer les mains pour qu'ils aient l'Esprit Saint en plénitude. La confirmation. Pour dire, dans notre communauté, nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Pour qu'on ne se sente pas orphelin, orpheline. Mais aussi, pour qu'on soit en mesure de porter le témoignage chrétien. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre le renouveau pastoral. Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons pas sentir le besoin de changement. Il faudrait demander la grâce du Seigneur aujourd'hui. Tout ce temps qui nous conduit à Pentecôte, pour qu'on sente le besoin, on ressente le besoin d'avoir la grâce de Dieu, qui est cette force qui peut nous permettre de vivre le changement. Et quand on reçoit l'Esprit du Seigneur en nous, eh bien notre pensée, nos actions, nos paroles sont transformées. Ça devient des pensées, des paroles, des actions pour le service, des pensées, des paroles, des actions pour le bien, pour être là, afin de relever les autres continuellement. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander une chose, qu'il prépare le cœur de chacun, chacune d'entre nous, à accueillir cet Esprit qui va nous transformer pour le bien des gens de Beacon Hill, pour le bien des gens de nos familles. Amen.